Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue en terre francophone. La francophonie à la fête à l'occasion du sommet de son organisation cette année en France. Énormément d'événements, y compris économiques, et c'est bien normal, dont celui où nous nous trouvons, Francotech, installé dans les locaux de Station F, ce campus de start-up inauguré en France en 2017. Beaucoup d'ambiance, vous l'entendez autour de nous. Ici sont réunis des centaines de représentants et de représentantes de cet écosystème de la tech par nature internationale, venus de tous les pays qui ont la langue française en partage et une motivation commune pour en faire un atout dans la conduite de leurs affaires. Vous avez remarqué, je n'ai pas employé le mot business. Alors, nous avons réuni ici 5 de ces chefs d'entreprise, en l'occurrence des chefs au féminin, 5 patronnes qui ont chacune leur parcours et leurs objectifs pour que la tech à la française soit utile à notre planète et qu'elle réussisse aussi à créer des pont avec le monde anglophone qui reste dominant, on le sait, dans bien des secteurs. Justement, j'accueille d'abord Karima Catherine Gundiam. Bonjour.
Bonjour Bruno.
Vous êtes la présidente directrice générale de B2B Match. Vous êtes sénégalo-marocaine et vous vivez au Canada depuis 24 ans après un passage aux États-Unis. Vous êtes à Toronto, métropole anglophone. B2B Match est une plateforme mondiale de mise en relation d'entreprises. Dites-nous en quelques mots.
Absolument, c'est une plateforme de mise en relation d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, et qui permettent aux entreprises de services professionnels de trouver des clients, de trouver des partenaires et des opportunités d'affaires.
Et vous dirigez aussi Red Dot Digital, c'est une société de conseil en stratégie numérique. Vous allez nous raconter votre parcours et votre lien naturellement avec l'Afrique et avec la France, où vous avez d'ailleurs grandi un rassemblement comme Francotech, c'est fait pour vous.
Absolument, je suis à ma place, merci Bruno.
Bonjour également à Gianta Dabo.
Bonjour Bruno.
Vous êtes la fondatrice et la présidente de Digital Nissa. C'est une start-up sénégalaise basée à Dakar qui met en avant l'expertise des femmes dans le numérique. Vous proposez des solutions, des services, des formations. À qui vous adressez-vous en général?
Alors nous, notre cible particulière, c'est les femmes, surtout les femmes qui étaient en déperdition scolaire. Digital Nissa les offre des formations gratuites qui leur permet de revenir dans le système éducatif et aussi de trouver un emploi pour à la fin être autonome et subvenir à leurs besoins.
Et puis vous avez créé une application qui répond à un besoin très précis. Elle s'appelle Sama Keitu Jodu. C'est une plateforme qui est dédiée à l'enregistrement des naissances. Le but, c'est de faciliter l'accès à l'état civil, de digitaliser les démarches, tout cela pour lutter contre ce qui arrive souvent, l'absence de reconnaissance légale des enfants. Et c'est un enjeu crucial dans de nombreux pays.
Exactement, la patrie. Donc, à la fin de notre formation à Orange Digital Center en 2019, nous avons vu qu'au sein de notre pays et dans les pays d'Afrique en majorité, il y a un problème qui se pose. C'est le problème de l'acte d'état civil. Donc, on a proposé une solution impactante qui était de permettre à ce que chaque enfant qui naisse puisse être enregistré automatiquement au niveau de l'état civil le plus proche. Et cette solution-là, on a inclus les prêtres, les imams, en tout cas les personnes qui sont susceptibles d'avoir ce contact avec les familles et de les sensibiliser à ce qu'elles puissent envoyer leurs enfants au niveau des municipalités pour l'enregistrement.
La tech au service du quotidien. À vos côtés, l'Afrique de l'Ouest, encore bonjour Francine Aïssi Ouangni.
Bonjour Bruno.
Vous êtes la présidente directrice générale d'Afrique Destination. C'est une agence de voyage à Cotonou, au Bénin. Pas mal d'autres activités dans le secteur touristique, dans l'éducation avec une fondation, dans la formation. Et puis vous êtes aussi la secrétaire générale du Conseil national du patronat du Bénin, de multiples responsabilités. Un agenda très rempli, on imagine, vous y arrivez?
Assez chargé, c'est pas toujours évident, mais j'essaye de faire le maximum. Et une fois encore, je puis dire que c'est grâce à la technologie qu'on peut, à partir d'un endroit, travailler un peu partout sans être plus obligé de courir partout. Où qu'on soit, on peut travailler désormais.
Voilà. Et puis, Plus précisément, vous mettez le numérique et la tech au service du tourisme. On sait que c'est un secteur de l'économie qui est en train de grandir en Afrique.
Exactement. Plus rien ne se fait aujourd'hui dans le tourisme sans toucher à la tech et au numérique. Les réservations, on peut voir là où on a envie d'aller sans bouger. On peut savoir ce à quoi on s'attend. Les visas que mon pays, le Bénin, a mis très rapidement en ligne. Avec la dématérialisation, c'est devenu beaucoup, vraiment plus de fait. Au risque même qu'on en arrive à savoir si les entreprises touristiques ont encore d'avenir. Mais avec le numérique, je pense qu'on fait énormément de choses aujourd'hui.
Et on va en parler largement dans l'émission La France. On remonte vers le nord géographiquement et on parle d'éducation avec vous, Caroline Métro. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice et la présidente directrice générale de Nomad Éducation. C'est une application et un site web. Vous proposez des contenus de révision qui ont été rédigés par des enseignants dans toutes les matières pour tous les jeunes francophones, qu'ils soient à l'école primaire, au collège, au lycée, dans l'enseignement supérieur. Et avec, on le précise, et c'est important, des contenus hors connexion. On connaît les difficultés liées à parfois l'absence ou à la faiblesse du réseau.
Oui, c'est une très belle aventure, la francophonie pour Nomad Éducation, parce que l'année dernière, on a eu 2 millions d'utilisateurs uniques, de jeunes, de Mayotte, de Dakar, de Côte d'Ivoire, de Paris, de la Corrèze d'où je viens, qui ont utilisé notre appli. Voilà, donc ça peut être des jeunes de milieux favorisés ou des jeunes même en Afrique qui n'ont pas accès à l'école, à qui on a réussi, grâce au digital et au numérique, à apporter l'école. Et effectivement, de 7 à 23 ans, voilà.
Et donc, y compris dans des zones rurales où le réseau Internet est parfois faible.
Exactement, on sait le coût de la data en Afrique. Donc là, ce qui est fantastique, c'est qu'une maman qui aurait 5 enfants, si elle télécharge le programme du collège, du lycée, et du SUP, elle pourra n'importe quand dans l'année profiter de l'application avec en plus une couche d'IA. C'est une boîte très tech, Nomad, qui vient de gagner un grand prix de la BPI pour remettre à niveau les enfants et aider à l'alphabétisation, notamment des jeunes femmes dont on parlait souvent et qui sont parfois privées d'école.
Comment vous vous financez à Nomad Éducation? Quel est votre modèle économique?
Alors, c'est une exception de la tech française. On a été élu dans les pépites françaises parce qu'on est autofinancé. Donc, c'est ma boîte. Je n'ai pas levé de fonds. Et en fait, les premières années, c'est un Spotify de l'éducation. On s'est financé par la pub. On avait la plus grosse communauté de francophones au monde, de jeunes. Donc, il y a des gens, des entreprises qui avaient envie de toucher ces jeunes, des missions sur le service civique, des choses comme ça qui sont venues à nous. Et depuis 2 ans, pour accélérer, on a lancé un modèle premium. Donc, on permet à une famille africaine, pour un prix par an, pour 5 personnes, d'acheter des exercices, des tests de français, des tests d'anglais, etc. Et ça accélère véritablement l'entreprise.
Et on va parler plus longuement tout à l'heure de ces liens entre la tech et l'éducation en francophonie. Voilà donc pour notre premier tour de table ici à la station F à Paris. Nous allons donc vous découvrir encore mieux, parler aussi des grands enjeux économiques autour de la tech, la chasse aux investisseurs, aux capitaux, les collaborations internationales, l'arrivée de l'intelligence artificielle, on l'a dit, et bien sûr la féminisation de ce secteur. Bonne émission à toutes et à tous. Allez, entrons dans le vif du sujet. Votre histoire, Karima Catherine Gundiam, entre l'Afrique et le Canada. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous provoquez des jumelages, vous provoquez des échanges de services avec votre plateforme de réseautage?
Absolument. Il faut savoir en fait que j'ai commencé donc Red Dot Digital en 2015. Et tout de suite, j'ai voulu grossir mon entreprise. Et pour ça, j'ai beaucoup voyagé. Parce que le Canada étant mon pays d'adoption, j'avais aussi des attaches dans d'autres pays. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres entreprises comme moi qui voulaient grossir, grandir et qui voyageaient énormément, dépensaient beaucoup, beaucoup d'argent dans des associations, dans des chambres de commerce, pour des événements. Et donc, je me suis dit, il y a une meilleure façon de faire ça. On doit pouvoir faire des jumelages, faire des connexions dans d'autres pays, sur d'autres marchés, ouvrir son entreprise à un autre monde, surtout pour les petites et moyennes entreprises qui, en général, ne sont pas aussi soutenues et aussi financées que les grosses entreprises. Donc, c'est comme ça que j'ai créé B2B Match, qui a vraiment pour vision de rivaliser avec les grosses plateformes américaines.
Et donc, vous êtes basé dans ce Canada anglophone, en Ontario. Oui. Est-ce que le Canada anglophone attire autant les Africains et les Africaines aujourd'hui que le Canada francophone, la destination, on va dire, plus naturelle?
Alors, on est une petite minorité, les francophones en Ontario anglophone. On n'est que 5%, mais on est très vaillants, comme on peut dire. L'avantage qu'on a, c'est d'avoir les deux marchés. Moi, j'évolue autant en anglais qu'en français, ce qui me donne techniquement énormément d'avantages. Mais on parlera des défis, évidemment.
Est-ce que le Canada anglophone aujourd'hui est plus dynamique dans ce secteur de la tech que le Canada francophone?
Je pense que oui, parce qu'on a la proximité des États-Unis donc, et des autres pays amis comme le UK, par exemple.
Les femmes dans la tech, Adji Antadabo, Digital Nissa, quand vous entendez Karima Catherine Goundiam, est-ce que vous y voyez, vous, un peu plus jeune, un exemple de leadership féminin dans ce secteur numérique?
Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, dans la tech, ce qu'on a besoin plus, c'est des mentors. Et c'est ce qui nous motive et ce qui nous drive. Donc, tous les jours, on part à l'aventure, à la recherche de ces femmes-là qui ont réussi, qui ont des success stories, qui permettent à d'autres femmes de se ressourcer et de pouvoir comprendre que c'est possible avec la tech d'y arriver. Donc, aujourd'hui, au sein de Digital Nissa, c'est ce qu'on essaie de développer. Adji Antadabo essaie de devenir cette story-là avec d'autres femmes. Mais avant tout, il faut savoir qu'au début, c'était très difficile parce que pour une personne qui ayant réussi son baccalauréat scientifique avec un système d'orientation qui n'est pas à notre faveur et était orientée dans des filières qu'elle était obligée d'y aller malgré et par défaut aussi financier. Comme rencontre beaucoup de femmes au Sénégal et dans la sous-région, on est confronté à ça. Moi, j'ai eu la chance de réussir à un concours d'entrée au niveau de Orange Digital Center qui m'a permis de suivre une formation de 10 mois et me certifier. Alors, je me suis dit que la chance qui m'a souri, ce n'est pas cette même chance qui sourit aujourd'hui à beaucoup de femmes sénégalaises. Donc, c'est l'idée, d'où l'idée est venue de co-créer déjà cette start-up et d'accompagner beaucoup de femmes dans l'autonomisation et surtout dans la tech.
Et ce qui se fait au Canada, ces jumelages qui se créent, y compris avec le continent africain, est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que de ce que vous savez de vos homologues dans d'autres start-up au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest, c'est une idée qui germe dans les cerveaux?
Alors, pour répondre déjà au thème francophone, nous, actuellement, on s'inspire de tout ce qui se fait un peu partout dans le monde. Et c'est avec ces réussites-là qu'on essaie, nous aussi, de marquer notre empreinte et de prendre le positif qu'il y a au Canada, en France et autres, pour pouvoir l'amener là où nous sommes, au Sénégal, et développer de plus en plus nos solutions.
Francine Aïssi Wongni, votre métier à vous, hein, c'est de créer des coopérations à l'international. C'est ça la finalité du tourisme, le cœur du métier de l'industrie touristique. Comment vous ressentez là ce que vous venez d'entendre?
Je pense que c'est très important. Vous l'avez dit, il faut être une femme de réseau également aujourd'hui si on veut vraiment se développer. Et en tant que telle, je milite au sein de plusieurs associations au plan communautaire. Au plan UEMOA, par exemple, je suis administrateur pour la Confédération des patrons du domaine touristique au niveau de l'UEMOA et président de la commission aménagement infrastructure au niveau de Copitour. C'est une confédération toujours de l'industrie touristique, mais au plan CEDEAO. Et donc, en tant que pays francophone, ça nous permet de nous retrouver souvent et de parler. Également, je suis la présidente pour le Bénin des femmes leaders mondiales, une association basée à Clermont-Ferrand et où nous mettons vraiment le numérique en avant pour développer chacune de nos associations.
Puisque l'on parle des femmes dans la tech, qu'est-ce que vous apportez de spécifique par rapport aux hommes? Et est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous apportez quelque chose de différent?
Personnellement, je puis dire qu'à mon petit niveau, vous avez évoqué tout à l'heure la fondation En tout pour tous que j'ai créée il y a 10 ans. C'est pour cultiver l'excellence en milieu défavorisé, essayer de mettre des enfants, des jeunes très intelligents à l'école Et donc, dans ce cadre, nous mettons un point d'honneur à encourager les filles à aller à l'école et à y rester, parce que lorsqu'on n'a pas d'abord la formation de base, on ne pourra pas évoluer pour être dans les domaines de l'intelligence, de la technologie plus tard.
Donc vous diriez que votre apport, c'est d'avoir une vision plus universelle ?
Exactement, exactement. Le petit bout qu'on peut faire à son niveau, c'est ce que j'essaye de faire à travers cette fondation. Mais j'ajouterais que mon État, le Bénin, met vraiment un point d'honneur à tout ce qui touche à la technologie, avec l'avènement de SemeCity, un ministère en charge du numérique dirigé par une femme depuis 2016, etc. Donc c'est autant de choses qui encouragent à cela.
Caroline Métro, qu'est-ce que les femmes apportent de plus dans cet univers du numérique, puisqu'elles prennent de plus en plus de place aujourd'hui?
Alors moi, sur 40 salariés chez Nomad Éducation, il y a 30 femmes. Donc déjà, je suis vraiment consciente de ce qu'elles apportent. On dit qu'on doit être exactement les mêmes. Moi, je pense qu'on n'est pas exactement les mêmes. Donc, il y a un vrai apport. Il y a même un apport qui est lié à nos histoires et parfois aux freins qu'on a eu à travers les hommes et que je ne porte plus aujourd'hui. Je m'en sens complètement libérée. Une forme d'affectivité qui est excellente à management. Il y a des choses qui nous arrivent. On parle beaucoup du sujet de la santé. La santé a été traitée pendant des siècles par les hommes. Résultat, il y a beaucoup de maladies de femmes, comme l'endométriose, etc., qui n'étaient pas traitées. Donc, il est essentiel qu'on ait une vision différente. Sur l'éducation, c'est souvent nous qui avons eu la charge de la maison, des tâches domicile. On a plein d'idées sur ces sujets-là, plein d'envies, de convictions. Et je pense qu'il y a quand même un mode de management qui est excessivement différent. En tout cas, moi, je n'imagine pas demain un monde de l'IA inventé par des hommes ou par des femmes. Je pense qu'il faut que ce soit fait par les deux. Et ce qui est génial dans une boîte, c'est la complémentarité. Et on a autre chose de très important qu'on ne dit pas assez parce qu'on répète qu'on ne lève pas des fonds. Moi, je mets un bémol là-dessus. On gère hyper bien nos boîtes. Toutes les études prouvent que les boîtes portées par des femmes se plantent beaucoup moins. C'est souvent nous qui faisions les comptes à la maison. Ça sert toujours. On a ce cerveau multitâche de femmes qui font tout. Et je pense que ça fait d'excellentes chefs d'entreprise.
Adji Antadabo, puisque l'on parle des résultats économiques, vous avez un programme Digitel qui s'adresse à ces jeunes filles qui veulent se former au métier du numérique. Quels sont vos résultats en termes d'emploi, avec le recul par rapport à vos premières expériences?
Alors déjà, il faut comprendre par le concept Digitel, pour faire allusion au digital, et elle, ça veut dire les femmes dans le cadre général. Parce que nous, on pense aujourd'hui, une personne est analphabète s'il n'a pas de compétences dans le digital. Et que c'est ce qui permet, avec ces programmes digitales, de faire une sensibilisation et une formation. Et en vue d'une collaboration toujours avec Orange Digital Center, chaque année, on a la possibilité de mener une cohorte 100% féminine de femmes, conforme, comme je l'ai dit tantôt, gratuitement, et qu'on accompagne à l'employabilité. Aujourd'hui, on a 60% de femmes qui étaient en dépérition scolaire, qui sont insérées, et il y a 10% qui sont dans l'entrepreneuriat, qu'on accompagne toujours. Le reste sont retournés pour faire leurs études. Alors qu'au début, tout ça n'était pas permis pour ces femmes-là.
Karima Catherine Goundiam, effectivement, sur ces résultats que l'on peut espérer dans l'insertion des femmes dans ce secteur du numérique. Est-ce que vous constatez des progrès chez vous au Canada et dans les pays dans lesquels vous opérez?
Absolument. Au Canada, on a quand même un marché très particulier puisqu'on a un pays immigrant et d'immigration. Donc, on a beaucoup de populations qui se côtoient tous les jours sur le marché du travail. Donc, moi, j'apporte une nuance d'intersectionnalité. Lorsqu'on parle de femmes dans le numérique, moi, je souhaite voir plus de femmes issues de la diversité qui percent dans ces métiers du digital. Et j'utilise énormément, non seulement ma plateforme, mais toutes les plateformes auditoires que j'ai pour en apporter plus, y compris commencer dès toute petite avec les filles à l'école. Et je viens justement de lancer un programme et de le livrer qui permet aux filles d'insérer des filles et les minorités visibles, comme on les appelle chez nous, d'insérer les domaines de la technologie.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs est à Francotech, à la station F à Paris, pour parler de la tech dans la francophonie économique.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
sur RFI.
Je voudrais vous faire réagir aux propos d'un anglophone, le milliardaire nigérian Tony Elumelu. sur ce fossé que l'on peut observer parfois avec le monde francophone dans le dynamisme des entreprises et y compris dans ce secteur de la tech.
If you look at the francophone Africa, in some areas the work culture is a bit different.
Dans certaines régions d'Afrique francophone, la culture du travail est effectivement un peu différente. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'avec la technologie, les réseaux sociaux et le numérique, le monde est en train de se globaliser. Les gens s'influencent mutuellement et de façon positive. Je constate que les comportements, les attitudes se ressemblent de plus en plus. Les gens ont de plus en plus la fibre entrepreneuriale.
You know, I talked to young African entrepreneurs in Cameroon. I talked to some in Côte d'Ivoire.
Vous savez, je parle à de jeunes entrepreneurs au Cameroun. Je parle également à des entrepreneurs en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Mali. Leur enthousiasme, je peux le voir. Ils adoptent cette attitude entrepreneuriale, et tant mieux. Mais il y a une chose que je dis au gouvernement. Les entrepreneurs réussissent lorsque les États décident délibérément de les soutenir et de créer un environnement favorable. C'est ce que devraient faire la plupart des gouvernements africains. Si vous voyez un pays où le secteur privé se développe, où les entrepreneurs prospèrent, c'est que le gouvernement a bien fait les choses. Les dirigeants africains doivent donc faire en sorte de soutenir leurs entrepreneurs pour qu'ils réussissent.
To support their entrepreneurs to succeed.
Le milliardaire nigérian Tony Elumelu, interrogé sur RFI par Clémentine Pavlotsky. Francine a ici à Ongni, vous entendez ce que dit Tony Elumelu, les gouvernements dans les pays francophones ne rempliraient pas toujours toutes leurs missions pour soutenir le secteur de la tech en particulier ?
Oui, je partage totalement ce que nous venons d'entendre. Je suis entièrement d'accord avec lui. Et je suis également très heureuse parce que je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, depuis 2016 avec l'avènement de l'actuel gouvernement qui est là, beaucoup d'accent est mis sur tout ce qui concerne la technologie. Je vous ai dit, avant 2016, on n'avait pas de ministère qui s'occupait uniquement que de cela.
Là, vous parlez du Bénin.
Du Bénin pour mon pays. Le Bénin, c'est vrai, nous sommes...
Si on réfléchit à l'échelle continentale ou à l'échelle francophone.
À l'échelle francophone, je pense que de plus en plus, les pays sont en train de comprendre. Et tout est en train d'être dématérialisé. C'est le Bénin, c'est le pays que je connais heureusement le mieux. Et donc, tout vraiment jusqu'au marché public, tout ce qui concerne la santé. Et ça règle beaucoup de problèmes. On ne peut plus corrompre parce qu'il y a plus, il y a un écran et tout se joue facilement. Je pense qu'il y a également d'autres pays en Afrique qui travaillent beaucoup à cela. Mais j'ai observé, comme il a dit, que des pays anglophones semblent être en avant sur tout ce qui concerne...
Caroline Métro, sur cette action des gouvernements dans le monde francophone. Bon, le secteur de l'éducation est érigé comme une priorité hein, dans tous les pays. Est-ce que vous diriez qu'il y a suffisamment d'argent qui est mis aujourd'hui pour les EdTech, cette articulation entre le public et le privé ?
Alors clairement non. Et puis c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'envie. Il y a quand même des pays où on n'a pas envie que tout le monde aille à l'école, il faut oser le dire, notamment les filles. Donc c'est pas un sujet de gouvernement. Parfois, ça peut même être de les empêcher d'aller à l'école. Il y a des sujets où l'éducation n'est pas du tout une priorité, donc les moyens, je ne parle pas de tech, ne sont pas mis. Nous, on est très utilisés aujourd'hui, très très utilisés avec une explosion au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Je veux dire, quand un pays, là où je le rejoins, un pays qui ne va pas bien, ou sur un territoire sur lequel il y a du danger, etc., je pense qu'au Liban, aujourd'hui, l'école va moins bien qu'elle allait il y a 20 ans. Voilà. Pour réussir, pour entreprendre dans un pays, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, et encore plus quand on est femme, parce que je regardais encore les taux de scolarisation après le primaire des jeunes filles qui n'augmentent pas dans certains pays. Il faut une vraie volonté gouvernementale. Donc je pense qu'il y a de Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire où il se passe des choses. Voilà, véritablement, je ne connais pas toute l'Afrique non plus. Et il y a des pays qui freinent dans des intérêts politiques, parfois à la place de l'éducation, parce que l'éducation, c'est la voie de la liberté.
Hadji Antadabo, le cas du Sénégal, bon, il y a eu un changement à la tête du gouvernement il y a quelques mois. Est-ce que, si on prend un temps un peu plus long, est-ce que vous diriez qu'il y a une prise de conscience de la part des pouvoirs publics de l'importance de miser dans ce secteur de la tech dans un pays comme le Sénégal ?
Bon, je peux parler pour le Sénégal. Je pense que l'envie est là. Tout le monde réclame qu'on doit partir vers la dématérialisation et tout. Mais je pense qu'il manque des actions qui doivent être posées. Et c'est cette lenteur-là qui aujourd'hui pose problème. Parce qu'au moment où les gouvernants tardent à réagir, la tech est en train d'évoluer et d'avancer très rapidement. Donc pour moi, je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Surtout aussi pour le cas du Sénégal, même si des actions sont en train d'être menées.
Eh bien, puisque l'on parle du Sénégal, on va écouter l'un de ses artistes sur RFI, Abou Tall. Voici Batoua.
Regarde la briller, c'est ma peau sombre. Tous les jours, je suis stylé jusqu'au bout des ongles. Et quand je dis 7-5, mes Renoir tri gang, gang. Pour les OGs et les petits du Banks, Banks. Je suis des petits Renoirs qu'on veut mettre à l'ombre. Ceux du 9, 10, 18 et du 11. J'ai vu l'Afrique fière et unie dans mes songes. Mais je ne l'ai pas vu passer ni jeter l'éponge. Donc n'oublie jamais mon petit que tes mains sont faites pour l'or, pas le bronze. Faites pour l'or, pas le bronze. Personne va le faire à ta place. Pas toi, pas toi, pas toi. La paix ça ne paiera jamais. Pas toi, pas toi, pas toi. C'est toujours toi qui fais la diff, diff. N'aie pas pitié, fais leur allonger le cash. Et n'oublie jamais, jamais, jamais que la justice, c'est Dieu qui la donne, pas le tribunal. C'est pire que j'imaginais.
C'est pire que ce que j'imaginais.
Bien pire que ce que j'imaginais. On a trop subi, vraiment trop subi pour qu'on en reste là. Cette flamme en nous, y'a rien qui l'éteindra. Ils le savent, mes bros et mes sisters. C'est les plus forts, laisse-moi t'expliquer pourquoi. C'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé. Donc personne pourra faire que ça change. C'est au change pour que ça change. Personne va faire à ta place. Pas toi, pas toi, pas toi. La paix ça ne paiera jamais. Pas toi, pas toi, pas toi. Hey. Bats-toi jusqu'à la fin. Encaisser pur en les coups. Pas toi. Aimer la fierté dans nos cœurs. Personne va le faire à ta place. Pas toi, pas toi, pas toi. La paix ça ne paiera jamais. Pas toi, pas toi, pas toi. C'est toujours toi qui fais la diff, diff. N'aie pas pitié, fais leur allonger le cash. Et n'oublie jamais, jamais, jamais que la justice, c'est Dieu qui la donne, pas le tribunal.
Jamais le tribunal.
Regarde-la briller, c'est ma peau sombre. Tous les jours je suis stylé jusqu'au bout des ondes. Et quand je dis 7-5, mes Renault tri gang.
Batoua, c'était le Sénégalais Abou Tall sur RFI. Se battre, oui, pour faire vivre la tech dans le monde francophone. À présent, un sujet qui fâche, peut-être, en tout cas un sujet de préoccupation, le financement de ce secteur de la tech qui pose parfois, et même souvent, problème. Les investissements extérieurs sur le continent africain sont dans une phase plutôt descendante. Karima Catherine Goundiam, comment vous voyez la situation vue d'un pays où les investissements sont peut-être plus naturels comme le Canada ?
En fait, c'est une très bonne question parce qu'on suppose que les investissements sont plus naturellement donnés aux femmes, peut-être aux minorités. Mais en fait, tous les ans, lorsque je vois les chiffres des investissements donnés aux gens qui me ressemblent, donc femmes, noires et francophones, c'est moins de 0,1%. Le climat économique fait que il y a énormément de diminutions dans les financements pour le moment. J'étais à San Francisco au début de l'année et ils ont aussi de la difficulté.
Et comment vous voyez la situation dans les pays de destination de ces investissements que peuvent être les pays africains? On constate un appauvrissement de ces investissements sur ces dernières
Absolument.
Années.
Absolument. Non seulement un appauvrissement des investissements vers l'Afrique, mais aussi un appauvrissement de l'investissement vers les minorités.
Vous voyez, vous, cette situation, vu du Sénégal, la difficulté pour les startups de trouver des investisseurs prêts à les financer?
Bon, je pense que c'est un véritable problème qui est aujourd'hui là. Et les startups sont plus aujourd'hui financées par le secteur privé. Et c'est une chose aussi qui est un peu décourageante pour des jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui essayent de mettre en place des solutions innovantes pour juste aider à ce que le pays puisse se développer. C'est vraiment déplorable aussi. Et quoi qu'on puisse dire, les financements ne sont pas toujours au rendez-vous.
Francis, ici où on est, aujourd'hui, selon les statistiques, seulement 20% des PME africaines peuvent prétendre à un prêt bancaire. Et ça va même bien plus loin pour les startups. 87% des startups n'ont accès à aucun financement.
Je partage totalement ce fait qui est une pure vérité. Les startups ont du mal à accéder au financement parce que pour la plupart, c'est des jeunes qui viennent de commencer. Et donc, les États ont un grand rôle à jouer pour les aider à trouver du financement, soit par des subventions, soit par la mise en place de fonds de garantie. Parce que ce n'est pas des jeunes qui ont déjà réalisé des biens. Les banques ne donnent rien sans parler de sûreté réelle ou d'autres choses. Donc, il faut une grande volonté. Et le Bénin a ajouté quelque chose récemment parce qu'il y a des jeunes start-up qui viennent, qui lancent leurs idées. Et quelques temps après, faute de moyens, ils voient les mêmes choses déjà mises en œuvre par des personnes mieux nanties. Donc, un décret a été pris pour les protéger, pour labelliser, de sorte qu'on puisse les aider vraiment à travailler, à développer leurs idées et à pouvoir en vivre pleinement.
Est-ce que vous assistez dans votre pays, le Bénin par exemple, à des faillites, à des arrêts d'activité de la part d'entreprises dans la tech ?
Dans la tech, non, je ne dirais pas. Je pense sincèrement que beaucoup d'efforts sont en train d'être déployés justement pour ce domaine-là dans mon pays.
Caroline Métro, est-ce que certains start-upers en France, au Canada ou dans le monde francophone africain, est-ce que certains start-upers prennent trop de risques ? Est-ce que certains ne préparent pas suffisamment leur dossier, ne sont pas prêts à se lancer ?
En tout cas, moi, je ne trouve pas qu'en France, on manque de moyens. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il faut avoir un BP. Je pense qu'on a aussi beaucoup donné d'argent à des start-up qui n'en avaient pas. Donc, il y a un retour en arrière qui, moi, me paraît assez naturel. Donc, d'ailleurs, je me définis plus comme une PME. Le bon sens paysan qui fait que je fais quand même pas de la physique nucléaire, donc j'ai pas des besoins énormes, donc on a vu des choses. Donc je pense qu'effectivement, il y a eu une phase start-up nation à fond, sans regarder, sans jamais parler chiffre d'affaires et rentabilité, et uniquement combien tu lèves.
Naturel, si on peut dire.
Oui, et là, le marché qui se retourne regarde quand même les gens, parce qu'au bout d'une, quand on a une certaine pérennité, on regarde quand même, aujourd'hui, le mot chiffre d'affaires et rentabilité est redevenu à la mode. Et c'est quand même pas mal, parce qu'on peut mettre un certain temps pour le trouver. Et moi, justement, je parle de business. Je pense que c'est un vrai sujet des femmes sur les levées de fonds. Elles ne parlent pas assez business. Je pense qu'on peut très bien porter l'impact, mais il faut de l'argent pour faire des choses. Donc moi, je suis très à l'aise avec l'argent. Je pense qu'il faut qu'on apprenne aux femmes à être à l'aise avec l'argent, parce que ce n'est pas une honte. La honte, c'est ce qu'on en fait. Si on en fait quelque chose de bien, il faut être hyper forte pour aller en chercher. Et souvent, dans beaucoup de start-up, les femmes, d'ailleurs, je ne suis pas toujours très bien perçue là-dessus. Voilà, il faut savoir. Et je pense qu'effectivement, il y a des start-upers qui ont levé pour vendre leur boîte 3 ans après, et qui cherchaient surtout une valorisation de sortie plutôt que la pérennité d'un projet. Donc c'est pas mal qu'il y ait un équilibre.
Karima Catherine Goundiam, quel conseil vous donneriez à une start-up qui veut se lancer et surtout qui cherche un financement ? À qui s'adresser ? Est-ce qu'il faut aller directement vers une banque ? Est-ce qu'il y a des organismes spécialisés dans les pays où vous opérez ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel conseil ?
Ça dépend vraiment de quel genre de start-up vous avez, mais aussi votre maturité. Moi, je conseille beaucoup le mentorat et de se faire accompagner par des gens qui ont déjà eu des entreprises, qui ont aussi raté leurs entreprises. C'est important de savoir comment accélérer sa réussite. C'est important d'avoir des relations avec les banques. Nous, on conseille ça beaucoup au Canada, de commencer à... On se rend compte que surtout les minorités et les femmes n'ont pas ces relations avec les banques. Donc, c'est très difficile pour eux d'avoir des prêts et du financement et de vraiment réseauter. Le networking, c'est extrêmement important. Et les femmes, en général, les femmes surtout d'origine minoritaire, ont tendance à ne pas avoir ces réseaux-là. Donc, on pousse vraiment... Moi, je conseille de le faire.
Adjianta Dabo, vous allez réagir à ça. Vous travaillez avec le groupe Orange en Afrique, avec son Digital Center. On va justement entendre son patron, Jérôme Hennick, patron d'Orange en Afrique et au Moyen-Orient, qui était juste avant Francotech dans nos studios à RFI pour parler de ce que fait le groupe Télécom français pour les startups en Afrique.
Ça, on y croit beaucoup. C'est une initiative qu'on a lancée en 2012 en Tunisie à l'époque, qu'on appelle les Orange Digital Center. On en a 16 aujourd'hui sur 18 de nos pays. Et on en a 32 dans les régions parce que l'idée, c'est pas de les avoir uniquement dans les capitales ou dans les grandes villes, mais c'est aussi de présenter ce dispositif souvent en partenariat avec les universités, les ministères de l'éducation nationale dans les régions. Alors ça sert à quoi ? Ça sert à incuber, à accélérer ces startups avec d'abord des programmes de formation au codage. On a plus de 1 200 000 bénéficiaires qui ont été formés gratuitement au codage, mais aussi aux technologies du cloud, de la cybersécurité, à l'IA maintenant, avec des partenaires. Et on croit beaucoup à cela. Et une grande partie de ces jeunes formés, gratuitement encore une fois, et avec une sensibilité particulière sur la diversité, 51% sont des femmes à date, et une grande partie d'entre eux vont monter leur projet.
Cet entretien avec Jérôme Hennig, directeur exécutif d'Orange Afrique et Moyen-Orient, à retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. Hadji Anta Diop, est-ce que c'est une des solutions à préconiser, se faire aider par de grands groupes comme Orange, mais il y en a d'autres sur le continent, bien sûr?
Alors, je pense que nous, on est la preuve palpable, parce que Digital Nissa est co-créé par des alumni de ces Orange Digital Center-là, plus particulièrement le Orange Digital Center de Dakar. Donc, l'Orange Digital Center, comme il l'a dit, c'est un programme qui forme gratuitement des jeunes, et surtout des jeunes qui étaient dans des situations très catastrophiques. On voit des jeunes qui sortent de prison, qui sont un peu délaissés par la société. Les Orange Digital Center les aspirent. Les personnes qui ont été en décrochage scolaire, comme je l'ai dit au début. Et tous ces jeunes-là ont la possibilité de rejoindre par concours les Orange Digital Center et de bénéficier d'une formation de qualité, comme moi j'ai fait du développement web et mobile. Et suite à cela, je suis passée au management. Donc il y a ce learning by doing là qui est initié dans ces Orange Digital Center. Juste dire que ce qu'on attend de plus du groupe Orange, c'est qu'il augmente le quota, parce qu'aujourd'hui la demande est très forte. Cette année à Dakar, on a reçu 23 000 candidatures pour juste 150 personnes. Et je pense que c'est déjà bien, mais on les appelle à plus augmenter la
demande. Changer d'échelle.
Voilà.
Caroline Métro, c'est le rôle des grandes entreprises, des grandes multinationales occidentales, de participer à cette émergence d'un écosystème de la tech dans le monde francophone, en Afrique francophone par exemple.
Alors moi, je porte ce discours, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Je faisais un plateau récemment avec le patron de Total Energy. J'ai été beaucoup critiquée pour ça. On l'aime ou on l'aime pas. Mais en tout cas, moi, ce dont je suis convaincue, c'est que sans les grands groupes, on ne changera pas le monde. Ce n'est pas Nomade Éducation, malgré ma volonté, celle de mes équipes. Donc, je pense qu'il faut aller voir ces gens-là. Nous, on travaille beaucoup avec la Fondation Orange sur l'Afrique. On a amené l'école à 500 000 enfants l'année dernière, des zones les plus défavorisées. On a besoin des gros groupes, d'Orano, etc., pour changer les choses. Donc, ils se doivent. Il y a une conscience qui est quand même en train d'arriver. Et je pense que, justement, on a besoin d'eux, de leurs moyens, leurs salariés pour avancer. On ne le fera pas tout seul, donc c'est pour ça que moi, la Startup Nation tout seul, j'y crois pas. Moi, je vais voir les groupes du CAC 40 régulièrement, je leur mets la tête au carré pour obtenir d'eux. Je leur dis, je suis petit, avec beaucoup d'ambition, je veux changer les choses, et ils aiment bien le faire. On est très bien accueillis.
Ce qui n'empêche pas de faire pression sur ces grands groupes,
mais au contraire,
pour qu'ils adoptent des pratiques.
Mais on ne peut changer les choses qu'en parlant. Moi, je ne change pas les choses en portant des panneaux dans la rue, c'est en allant les rencontrer. Et en apportant ma pierre à l'édifice et en disant, si vous achetez par exemple notre abonnement premium pour tous les salariés de Total Energy au Sénégal, que vous impliquez dans l'éducation des enfants, que vous faites des choses pour l'eau, la planète, voilà, je pense qu'ils sont plus puissants que moi pour agir et que moi je suis là pour crier un peu plus fort qu'eux et faire bouger les lignes. Mais on a besoin d'eux, c'est une évidence.
Pas de boycott, Francis, ici où on est.
Non, mais j'ai pas forcément raison, c'est mon positionnement de chef d'entreprise.
En tout cas, il y a débat et tout le monde n'est pas d'accord, mais on est là pour ça.
Voilà, c'est mon positionnement.
Francis, ici où on est.
Je pense que c'est très important. C'est vrai qu'au Bénin, il n'y a pas Orange directement, mais il y a des grands groupes comme MTN, Move Africa et Celtis qui détiennent des fondations et qui investissent beaucoup également dans tout ce qui a trait au développement, construire des salles de classe, mettre les enfants à l'école, etc. Et on a besoin de les aider forcément.
Karima, Catherine Goundiam, vous vous trouvez sur le continent nord-américain où les géants de la tech sont basés et qui s'intéressent de plus en plus à ce monde francophone africain, notamment Google est de plus en plus présent, par exemple.
Oui, mais moi, j'aimerais parler aussi de ce que le CEO de NVIDIA a dit. Je suis totalement en accord avec lui. C'est que lui prédit la mort du coding, parce que le coding va devenir une commodité. La tech, pour moi, la façon dont je la vois, je suis depuis plus de 20 ans dans la tech, Moi, je vois qu'il va y avoir une commoditation, mais on est vraiment en francophonie là. Ça va devenir mainstream au niveau du coding et de la tech. Moi, je vois un avènement des humanités et des sciences sociales. Je vois que l'Afrique aura vraiment énormément de chance parce qu'il y a beaucoup de formations en Afrique sur les humanités et les sciences sociales qui vont pouvoir aider, surtout dans les domaines comme l'intelligence artificielle. Et c'est extrêmement important d'en parler.
Caroline Métro, l'apport de l'intelligence artificielle, y compris dans votre domaine de l'éducation, il y a des marchés à développer là maintenant grâce à l'IA.
Oui, mais je rebondis là-dessus. Nous, il y a 350 profs auteurs chez Nomad Education. L'IA chez nous, elle est valable parce qu'il y a de l'humain, des gens qui ont côtoyé des jeunes aujourd'hui. Voilà. Et moi, je dis à tous les jeunes, aux 2 millions d'utilisateurs qui doivent développer ce qui leur est perso, c'est ça qui fera la différence demain. Le capital humain, c'est capital. Oui, l'IA, elle est fantastique. Aujourd'hui, par exemple, quand j'ai des contenus en mathématiques, faire le Wolof, les langues locales, ça n'a plus rien à voir avec il y a 2 ans. Aujourd'hui, si je vous prends l'exemple de Mayotte où notre scolarité souffre, ça fait des années qu'on demande aux enfants en mathématiques la distance entre Paris et Marseille. Imaginez dans leur tête d'enfant, ça ne veut rien dire, ils ne connaissent pas Paris, ils ne connaissent pas Marseille. Nous, ce qu'on a développé, c'est des programmes qui, en fonction de là où on se trouve, vont s'adapter. Quand vous parlez de tomates dans un pays où on ne mange pas de tomates pour compter des légumes, il y a quand même un sujet. Donc l'IA générative là-dessus, elle est fantastique, elle permet d'adapter les contenus en fonction des appétences des jeunes. Et l'IA de recommandation, elle est fantastique parce qu'elle va détecter une faiblesse. Quand on fait avancer tout le monde, ben, y en a, ils restent au fond. Ben, la confiance, on la perd et on recule et on finit dernier et on arrête et on se déscolarise. Donc nous, on a créé des programmes qui permettent d'identifier les lacunes d'un enfant et de les remettre à niveau, de le refaire venir sur, même en CE2 si c'est nécessaire, pour qu'il prenne confiance et qu'il grandisse sur des prérequis, comme le faisait notre certificat d'études en France, qui permet si bien de s'intégrer et de réussir sa vie.
Je fais une parenthèse sur la démocratisation de l'accès aux ressources éducative en particulier, c'est le projet de ce qu'on appelle l'open education, hein, comme disent les anglophones, les ressources éducatives libres. C'est ça l'avenir dans notre monde francophone d'aujourd'hui ?
Alors, je pense qu'il y a de ça. Mais moi, je crois énormément à l'école. Donc j'espère qu'en Afrique, il y aura de plus en plus d'écoles, je crois, à la rencontre avec un professeur. Donc je suis une anti tout digital, sauf quand il n'y a pas d'autre choix. Véritablement, c'est un humain qui change la vie d'un enfant. Donc ça, c'est un point de vue personnel qui fait qu'on vivra ensemble, qu'il y aura moins de guerre, etc. Si on nous met tous derrière des écrans, je suis très inquiète.
Là, on parle de l'école plutôt pour les petits. Ouais, après, alors, quand on va dans l'enseignement supérieur.
Bah, j'aime bien, voilà. En tout cas, ce que j'ai poussé quand même, j'aime quand même bien. Je suis une fille qui pense qu'on apprend plus dans les bancs d'université auprès de ses pairs que derrière un ordinateur. C'est très personnel, c'est une démarche de mère et je le vois souvent dans la vie. Après, sur le reste, sur l'open, oui, mais il faut que ce soit ultra. Vous savez que là, il y a une bulle de l'IA. Il y a même, on parle de burn-out de l'IA, c'est-à-dire qu'elle tourne en rond, on est en train de se... Donc il y a de moins en moins d'informations, donc il y a des informations de plus en plus erronées. Allez chercher qui je suis, vous allez voir que mon fondateur n'est pas le bon. Il y a plein d'erreurs, etc. Donc je pense que la main de l'humain et sa vision sur cette IA et ce contrôle, et ce qu'on tape, vous avez déjà essayé de faire, apprendre aux gens à s'en servir. Donc nous, c'est ce qu'on fait dans l'app, on a fait comme on peut le faire avec le code. L'IA, il faut que nos générations la maîtrisent, parce que sinon, si vous ne mettez pas le bon prompteur, le résultat que vous allez obtenir est catastrophique.
À Gianta Dabo, ça vous fait peur l'IA ou ça vous attire ? Est-ce que ça vous oblige à revoir vos formations pour les jeunes femmes qui veulent entrer dans ce secteur du numérique ?
Alors, je pense que l'IA, c'est une chose qui nous fait plaisir parce que c'est avec l'IA que la scalabilité peut se faire et que c'est avec l'IA qu'on peut atteindre un ciel plus élevé, un ciel Macron. Il y a les tableaux intelligents. Aujourd'hui, je peux être sur Dakar, enseigner à des personnes qui sont dans le nord, dans le sud. Donc, pour moi, on doit adopter l'IA dans notre programme de formation. On doit améliorer en fonction de ce que l'IA nous propose. Donc, pour moi, l'IA est un atout majeur pour tout ce qui va se faire dans le digital.
Francine Aïssi Wangni, un mot de conclusion sur l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle, c'est incontournable, c'est oui. Mais j'ajouterais un bémol en considérant ce qu'elle a dit tout à l'heure. Je pense que au-delà de tout ce que l'IA peut faire, le contact humain reste indispensable pour le développement, surtout des enfants. Et donc, il faudra voir dans quelle mesure pour ne pas tomber dans science sans conscience qui ne serait que ruine de l'âme.
Merci à vous cinq, Francine Aïssi Wangni, présidente directrice générale d'Afrique Destination, Caroline Métro, Nomade. Éducation, Adji Antadabo, Digital Nissa et Karima Catherine Gundiam, B2B Match, basé donc à Toronto, en Ontario. Merci d'avoir participé à cette éco-dici-éco d'ailleurs spéciale Francotech à la station F à Paris, à l'occasion du sommet de la francophonie, de nombreuses émissions sur les antennes de RFI. Je profite de ce moment pour vous parler d'un jeune homme heureux, certainement, le lauréat de l'édition 2024 du concours 60 secondes pour convaincre, un concours organisé par l'Agence universitaire de la francophonie, ouvert à tous les étudiants des établissements membres de l'AUF. Chaque candidat a une minute, pas une seconde de plus, pour présenter un projet entrepreneurial. On écoute sa vidéo.
Bonjour, je m'appelle Jean-Ulric Rémélissant et je suis étudiant à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Je vous présente notre projet intitulé SANE, qui a pour but de valoriser la culture orale malgache. Le savoir oral traditionnel malgache se perd avec le temps. Notre objectif est de créer une plateforme numérique où les jeunes peuvent apprendre et partager avec les aînés. Cette plateforme enregistrera les récits, les chants et les légendes des anciens, et les jeunes y accéderont pour enrichir leur culture avec des outils numériques modernes. SANE renforce la cohésion sociale, préserve notre patrimoine et éduque les jeunes. En partenariat avec l'Université de Toamasen, les données collectées seront intégrées au musée ethnologique. Le projet est estimé à 19 320 euros avec un modèle économique adapté au contexte malgache pour assurer sa durabilité. SANE, aligné avec les valeurs de la francophonie, mérite votre soutien. Merci de croire en la puissance de notre culture et de notre jeunesse.
Jean-Ulric, Rami Allison, SANE, cette plateforme de valorisation de la mémoire malgache, bravo à lui. Il gagne d'ailleurs un joli chèque de 1500 euros grâce à l'AUF qui lui sera bien utile pour ses projets. Francine a ici que penser de ce genre de projet, de ces idées qui foisonnent parmi les jeunes francophones et qui ont envie de créer.
Je pense que pour pouvoir vraiment véritablement les développer, c'est important de mettre la lumière sur ces jeunes-là, sur ce qu'ils font, afin qu'ils puissent trouver des personnes capables de les aider à aller très loin. Donc la visibilité, ça importe beaucoup dans le développement de la technologie.
La visibilité, Caroline Métro, vous...
C'est important de mettre... Il y a énormément de volonté d'entrepreneuriat chez nos jeunes. Moi, je trouve ça fantastique, cette envie. Ça a vraiment changé, moi, à leur âge. J'aurais jamais osé, mais moi je leur répète aussi qu'on peut entreprendre dans une entreprise. On n'est pas obligé de créer sa boîte, on a parfois des belles idées et on est tous entrepreneurs des projets dans lesquels on s'implique. C'est important parce qu'on n'a pas tous un profil d'entrepreneur. Il faut oser le dire aussi.
Adji Antadabo, vous avez commencé aussi avec cette difficulté de vendre un projet. Là, c'est une vidéo en 60 secondes, mais il faut aller voir un banquier, un partenaire. C'est le début qui est difficile.
Oui, c'est le début qui est difficile et je pense que le plus grand problème qu'a les entrepreneurs aujourd'hui, c'est de pitcher leurs projets. Ils ont des projets innovants, mais ce qui m'a plus plu dans son projet, c'est qu'aujourd'hui, on voit que les jeunes sont en train de marier culture et le digital. Ce qui veut dire que quelle que soit l'innovation qui se passe, les jeunes resteront toujours ancrés avec leur culture et ils seront toujours enracinés en tout cas.
Le digital et les liens aussi entre les générations.
Exactement.
Merci à vous toutes. On se retrouve samedi prochain. Ce sera un nouveau grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique, venu justement du Sénégal. Pas plus de précisions. Restez connectés. Bonne semaine à tous. Un nouveau journal tout de suite sur Radio France Internationale.
Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.